13h, bonjour et bienvenue à cette émission mensuelle produite par CIBL en collaboration avec l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes, l'ICEA, qui vous est offerte donc à tous les deuxièmes mercredis du mois. C'est Anne-Marie Kerouac au micro qui vous retrouve donc après ce midi libre et qui prend le relais à la barre de cette émission, le relais de Marc-André Carignan qui a piloté les émissions du mois de septembre et du mois d'octobre. Cette série d'émissions s'inscrit dans le cadre de la démarche que l'ICEA a entreprise pour la tenue d'un grand événement qui aura lieu au printemps 2013, le Rendez-vous pour un Québec apprenant. On souligne le 10e anniversaire de la mise en place de la politique gouvernementale en éducation des adultes et en formation continue. Alors aujourd'hui, à l'émission, on s'intéresse au milieu de travail et à l'apprentissage. L'apprentissage qui prend de multiples formes. En deuxième demi-heure d'émission, on parlera du transfert des compétences d'une génération à l'autre. On vous présentera donc ce mode de formation avec M. Pierre Soriol, qui est consultant de la firme Éthique, transfert intergénérationnel des compétences. Et on aura aussi quelqu'un qui a intégré ce mode de formation dans son entreprise, M. Jacques Leblanc, qui est coordonnateur du développement pour la coopérative Profidor. Dans une vingtaine de minutes, on abordera le développement des compétences essentielles ou compétences de base avec Paul Bélanger, qui est professeur à l'UQAM et directeur de l'Observatoire Compétences Emploi. Et enfin, dans quelques instants, j'accueillerai donc en studio M. Gilbert Rivrain, qui est chargé de projet au comité sectoriel de main-d'œuvre fabrication métallique industrielle, et Mme Sylvie Chartrand, qui est directrice du service de la formation professionnelle à la commission scolaire Marguerite Bourgeois. Et le thème abordé avec eux sera l'apprentissage en milieu de travail et l'apprentissage dans une institution de formation. Alors, en route pour un Québec apprenant. On parle d'éducation pour les adultes, d'apprentissage. On connaît peut-être pas toutes les options qui s'adressent autant aux employés qu'aux employeurs. Et pour vous faire découvrir deux des modes de formation professionnelle, soit les programmes d'apprentissage en milieu de travail ou PAMT et les programmes de formation professionnelle en secteur formel, j'accueille M. Gilbert Rivrain, qui est chargé de projet au comité sectoriel de main-d'œuvre fabrication métallique industrielle. Bonjour.
Bonjour.
Et Mme Sylvie Chartrand, qui est directrice du service de la formation professionnelle à la commission scolaire Marguerite Bourgeois. Mme Chartrand, bonjour.
Bonjour.
Alors, dans un premier temps, on pourrait peut-être présenter brièvement ces deux modes de formation. On pourrait définir ensuite à qui s'adresse ou si ça s'adresse vraiment à une clientèle spécifique. Des modes qui sont, il faut le dire, complémentaires et non concurrents aujourd'hui. Alors, Mme Chartrand, à la commission scolaire Marguerite Bourgeois, vous proposez différents types de programmes avec des dénominations déjà un peu plus familières pour nous, comme les DEP, par exemple, les diplômes d'études professionnelles.
Oui. À la commission scolaire Marguerite Bourgeois, nous offrons des diplômes d'études professionnelles. On parle de la formation professionnelle. On offre aussi des attestations de spécialisation qui permettent, suite au DEP, à l'obtention du DEP, d'aller se spécialiser davantage dans un métier. Et naturellement, on a les attestations d'études professionnelles aussi qui sont offertes dans nos milieux. On a environ autour de 45 programmes qui permettent justement dans différents secteurs de formation. De plus, c'est sûr que l'important au niveau de la commission scolaire, on travaille aussi avec d'autres commissions scolaires, et on pourrait dire que sur l'île de Montréal, incluant nos 5 commissions scolaires, nous avons plus de 100 programmes en formation professionnelle.
Et ce sont des programmes qui se déroulent dans des centres de formation professionnelle, oui, qui forment des étudiants, on pourrait dire, généralistes.
Oui, dans le fond, c'est des formations initiales qui sont offertes. Ces formations-là sont offertes à toutes les personnes, que ce soit des jeunes, des adultes, des personnes immigrantes et souvent même des personnes immigrantes scolarisées qui veulent trouver une porte d'entrée finalement, puis le DEP peut être un moyen en soi pour justement avoir cette formation initiale-là, développer des savoirs non seulement pratiques, mais aussi théoriques, et en même temps permettre à ces gens-là d'être plus autonomes et d'intégrer, et surtout de maintenir leur emploi sur le marché du travail.
Tout à fait, et bon, on pourra en reparler aussi un peu plus tard des nouveaux arrivants qui aussi viennent pour différentes raisons. Donc ça, c'est grossièrement donc ces formations en milieu plus formel, milieu scolaire. Et parallèlement, on va aborder donc les programmes d'apprentissage en milieu de travail. Donc là, on sort du domaine scolaire. Et chez vous, donc, au comité sectoriel, ces programmes d'apprentissage sont basés sur le compagnonnage, c'est-à-dire apprenti et un apprenant, finalement.
Oui, effectivement.
En fait, on a un accompagnateur et un apprenti.
Oui, qu'on appelle l'apprenti, donc, c'est l'apprenant. Et l'accompagnateur, on l'appelle compagnon. Donc, c'est un mode d'apprentissage en milieu de travail. C'est basé sur un programme gouvernemental, donc une formation structurée qui permet à un apprenti d'acquérir les différentes compétences propres à un métier en milieu de travail sous le coaching ou l'égide d'un travailleur plus expérimenté qui maîtrise déjà ses compétences, donc qu'on appelle compagnon.
Et donc, je parlais de généraliste pour ceux qui font peut-être des diplômes d'études professionnelles. Et là, on va plus vers le spécialisé quand même dans les programmes en milieu de travail.
C'est-à-dire qu'il y a différents programmes d'apprentissage pour différents métiers. Évidemment, selon le contexte, le métier, etc., ça peut changer. Nous, par exemple, au comité sectoriel, on représente donc tous les métiers de la fabrication métallique industrielle, soit la fabrication mécanique, la métallurgie également, donc tous les métiers de l'usinage, du soudage. Ce sont des métiers spécialisés qui habituellement nécessitent donc une formation pré-emploi de type professionnel qu'on va recevoir, par exemple, dans les centres de formation professionnelle dont vient de nous parler.
D'où la complémentarité des deux.
D'où la complémentarité, effectivement. Donc, ce sont des métiers spécialisés pour lesquels il est difficile d'acquérir les connaissances, les savoirs essentiels au métier en contexte de production, parce qu'il faut le dire, le programme d'apprentissage en milieu de travail se déroule, ce n'est pas une formation, on n'est pas à l'école, on est vraiment dans un contexte de production.
C'est dans la réalité.
Dans la réalité, effectivement, donc avec tous les impératifs que cela représente dans le secteur, par exemple, dans le secteur manufacturier, bien qu'il y a des programmes d'apprentissage aussi pour le domaine des services, etc.
Et comment ça se passe pour quelqu'un qui serait intéressé à faire un programme en milieu de travail? On s'inscrit à ça ou on doit...
Oui. Il faut le dire, le programme d'apprentissage en milieu de travail, c'est une mesure donc qui s'adresse d'abord et avant tout à l'employeur. C'est une mesure destinée à aider les employeurs, principalement, je dirais, des petites et moyennes entreprises où le service de ressources humaines est moins développé. Donc, un programme qui est destiné à aider les employeurs à parfaire la formation de leur personnel. Donc, c'est l'employeur qui va décider de miser sur un employé pour lequel il a détecté un certain potentiel et de l'inscrire au programme d'apprentissage en milieu de travail. Ce qui est très intéressant pour l'employé, par contre, pour l'individu, c'est qu'il va avoir une formation structurée en milieu de travail. Il ne sera pas laissé à lui-même. Il va savoir vers où il s'en va. Et au bout de la course, il va recevoir également, s'il réussit évidemment le programme, il va le recevoir un certificat de qualification professionnelle signé du ministre de l'Emploi, donc une reconnaissance officielle, étatique, qu'il maîtrise bien les compétences du métier.
C'est bien qu'on ne soit pas dans un cadre formel, on reçoit un certificat qui, lui, l'est, qui sera reconnu dans toutes les autres entreprises, pas seulement dans celle dans laquelle on a fait ce compagnonnage.
Non, c'est vraiment une reconnaissance d'État. C'est versé dans un registre même national des compétences. Alors, je ne dirais pas que c'est l'équivalent d'un diplôme professionnel. On pourra en parler peut-être tout à l'heure, la différence entre les deux, mais c'est vraiment une reconnaissance officielle. Puis, même si c'est pas, la formation habituelle, formelle, telle qu'on la conçoit, ça demeure quand même un programme structuré avec ses propres, paramètres, là.
sa propre structure
sa propre et structure,
ses propres règles.
Et... Exactement, c'est les règles, c'est le mot que je cherchais, oui.
Oui, OK. Et sinon, si on parle de ceux qui font les différents programmes, bon, de la clientèle, on en a parlé brièvement, Mme Chartrand, vous parliez des nouveaux arrivants, mais sinon, en général, bon, on va parler de chez vous à la Commission Marguerite Bourgeois, quels sont ceux qui font appel au programme de formation professionnelle?
Tout dépend du type de programme. C'est certain que les jeunes, il y a des programmes qui sont très connus de cette clientèle. Là. Alors, si je pense à des programmes en électricité où il y a des les jeunes sont le connaissent très bien ou d'autres programmes. Par contre, il y a différents programmes où sont méconnus. La formation professionnelle offre cette diversité et souvent c'est méconnu. Donc, les jeunes sont attirés vers des programmes qu'on connaît et dont le marché est très intéressant. Par contre, il y a d'autres programmes où on reçoit une clientèle peut-être un peu plus âgée permet justement d'atteindre le marché du travail, de développer des compétences. Tantôt, vous avez parlé de généralistes et en même temps, on forme des gens beaucoup polyvalents. Au niveau de la polyvalence, ça permet justement de toucher à un secteur en particulier, mais de travailler dans différents milieux. Alors, c'est peut-être un peu la différence par rapport quand on dit le PAMT est une continuité, c'est un ajout à la formation professionnelle. Alors, c'est là un peu la différence par rapport au programme.
Et sinon, dans les adultes, bon, vous parliez de gens de différents secteurs qui pourraient attirer une clientèle plus âgée, mais sinon, il y a aussi, j'imagine, des gens qui font une réorientation de carrière, qui vont opter pour le DEP, qui est plus rapide aussi que retourner à l'université, par exemple.
Exactement. Les gens qui veulent se réorienter, et tantôt, on a parlé de la clientèle immigrante, et souvent, les immigrants qui sont scolarisés doivent se dire, le DEP, c'est une porte d'entrée, parce que souvent, il faut aller chercher l'expérience du marché du travail, il faut connaître les normes propres au Québec. Alors, et c'est un passage plus rapide et un passage aussi qui permet de dire le temps que je m'installe au Québec, je peux aller chercher une formation, faire vivre ma famille et par la suite continuer des études si le milieu me le permet à ce moment-là.
Une façon de rencontrer des gens aussi du milieu, peut-être de
Exactement.
Façon plus facile que de juste se chercher une offre d'emploi.
Et il faut dire aussi en formation professionnelle, c'est certain que toute la formation se passe dans des centres. Mais ce qui est majeur et important en formation professionnelle, c'est le contact avec les entreprises parce que tous nos programmes ont des stages en milieu de travail, donc ce qui permet aux étudiants, aux élèves de vivre une expérience à des périodes données pendant la formation.
Et de voir comment ça fonctionne vraiment.
Exactement.
On parlait de réalité tout à l'heure avec les PAMT, mais là aussi à la fin, ils peuvent vérifier si est-ce que ce qu'ils ont appris à l'école vraiment ou s'ils aiment la réalité du métier.
Oui, parce que les savoirs, que ce soit, comme on disait tantôt, au niveau de la théorie, au niveau de la pratique, mais il y a tous les savoir-être aussi pour assurer le maintien en emploi qui est majeur, parce que souvent les entreprises sont au clair avec le fait que les élèves ont un diplôme, mais qui sont-ils, ces élèves-là? Et c'est ce qu'il faut travailler durant la formation, tout ce volet du savoir-être pour permettre justement cette intégration.
Tout à fait. Et M. Rivrain, un peu plus tôt, on parlait de la façon de faire du PMT qui était que c'était l'employeur qui décidait d'offrir cette formation à un employé. Mais quel est, par exemple, le niveau de connaissance de ce type de programme auprès des entreprises ici au Québec?
Vous voulez dire la popularité
du
programme? Oui,
c'est ça. Est-ce que c'est reconnu? Est-ce que les employeurs connaissent qu'ils peuvent faire ce genre de formation?
Premièrement, on pourrait dire que le système scolaire avec la formation professionnelle et le programme d'apprentissage du milieu de l'emploi sont comme deux grands dispositifs de formation professionnelle. C'est sûr que, disons que le milieu scolaire est bien établi et bien la valeur, je dirais, symbolique sur le marché du travail du diplôme est reconnue depuis bien longtemps. Le programme d'apprentissage en milieu de travail est une mesure, somme toute, assez jeune, puisque dans sa forme actuelle, elle date de seulement 2002. Pour répondre à votre question, je dirais que les entreprises qui connaissent le programme y reviennent volontiers. C'est un programme qui est très, très apprécié, comme je l'ai mentionné tantôt, auprès des petites et moyennes entreprises qui ont plus de misère, donc, à structurer, par exemple, la formation et les ressources humaines, qui ont moins de moyens pour structurer cette formation en milieu de travail. Par contre, c'est vrai aussi que le certificat de qualification professionnelle comme signal de compétence sur le marché du travail, je crois, aurait intérêt à être encore plus connu et valorisé par ces mêmes employeurs. Puis, si vous me permettez, je reviendrai un petit peu sur la différence différence entre le DEP et le PAMT, justement. Je pense que la différence majeure qu'on doit souligner, c'est que le DEP, le système scolaire, donc, vont former les gens au seuil d'entrée sur le marché du travail. C'est le niveau, si on veut, le niveau de qualification, appelons ça comme ça, le niveau de qualification visé par la formation. Tandis que le programme d'apprentissage en milieu de travail sanctionne, certifie une personne au niveau de qualification d'une personne expérimentée, donc qui maîtrise les compétences du métier. Pour dire les choses autrement, quelqu'un qui arrive avec son diplôme d'études professionnelles a accumulé un bon bagage, mais a tout à apprendre. C'est vrai dans nos métiers manufacturiers, mais c'est vrai dans tous les métiers, le vôtre comme le nôtre.
Ouais. Et même ceux qui font des études universitaires
Exactement.
La connaissance qu'on a à l'intérieur, mais justement les apprentissages, les compétences s'acquièrent dans le milieu, dans le marché du travail.
Alors même si ce niveau-là n'est pas tout le temps facile à définir, c'est un peu le travail que je fais au comité sectoriel, on doit dire quand même que le certificat de qualification professionnelle, une fois que la personne le détient, certifie donc que cette personne-là maîtrise les compétences en contexte, en milieu de travail. Une autre grande différence, comme l'a si bien dit Madame Chartrand, c'est que effectivement, au DEP, on va former une personne, disons généraliste, c'est vrai, quoique on parle ici de métier spécialisé, mais je le dirais en termes, disons, savants, c'est que le périmètre de qualification est très large dans le DEP. On va montrer le plus, on va toucher à toutes les facettes, tous les aspects du métier, justement pour augmenter les chances de l'apprenant, de l'individu, de se trouver du travail, pouvoir donc se trouver du travail dans différents contextes industriels. Le PAMT, ce qu'il va perdre en largeur, en périmètre de qualification, donc, va le gagner par contre, je dirais comme ça, en épaisseur. Donc, on va approfondir, si on veut, la compétence.
Oui. Tout à fait. Et Madame Chartrand, pour vous, à la commission Marguerite Bourgeois, vous travaillez aussi sur plusieurs projets, des nouveaux projets. Oui. Il y a des projets pilotes que vous avez. On va terminer là-dessus pour vous.
D'ailleurs, au niveau du ministère, on demande, c'est-à-dire qu'on a comme mandat aussi d'augmenter le nombre de jeunes en formation professionnelle. Il faut promouvoir la formation professionnelle. Donc, nous avons des projets de développement au niveau de la concomitance pour permettre aux jeunes, justement, d'obtenir non seulement leur DES, mais aussi leur DEP. Alors, ce projet-là aussi permet d'arriver pour les jeunes, les parcours de continuité, non seulement d'obtenir ces deux diplômes-là, mais de continuer leurs études au niveau collégial. Donc, cette année, pour 2013, c'est-à-dire pour 2013-2014, nous préparons un projet de concomitance en soutien informatique qui permettra justement aux jeunes d'obtenir les deux diplômes et de continuer des études au niveau collégial.
Oui, même par la suite, vous offrez un accompagnement même si ça ne se fera pas dans votre centre. Là,
ouais. Exactement. Et le partenariat se fait au niveau de la commission scolaire et au niveau du collège aussi. Et au niveau de l'immigration, je pense que c'est important de souligner la reconnaissance des acquis et des compétences qu'on appelle la RAC, qui permet justement aux immigrants scolarisés, aux immigrants qui avaient de l'expérience dans leur pays, de faire reconnaître ces expériences-là, ces compétences-là pour obtenir un diplôme d'études professionnelles ici au Québec. Alors, je pense que c'est un parcours intéressant pour ces gens-là, justement, pour obtenir un DEP en fonction de ce qu'ils ont acquis dans leur pays.
Que DEP, finalement, ce n'est pas qu'associé aux jeunes et que ça peut être utile pour différents types
différentes clientèles, différents adultes, mais je pense qu'il faut la faire connaître, la promouvoir auprès de nos gens. Et je profite de ce moment pour inviter les gens. On a le programme Élève d'un jour. Alors, si les gens ont le goût de découvrir nos programmes en formation professionnelle, vous êtes invités à faire élève d'un jour dans nos 6 centres de formation pour justement découvrir nos différents programmes.
C'est une invitation lancée donc à la commission scolaire Marguerite Bourgeois. Et c'est là-dessus qu'on va se laisser. Ça passe très vite et pour du côté des PMT, c'est aussi de faire mousser donc leur popularité pour que les entreprises puissent connaître ce type de formation.
Oui, tout à fait.
Alors, je rappelle, on avait ici en studio M. Gilbert Rivrain, qui est chargé de projet au comité sectoriel de main-d'œuvre fabrication métallique industrielle, et Mme Sylvie Chartrand, directrice au service de la formation professionnelle à la commission scolaire Marguerite Bourgeois. Merci beaucoup à vous deux.
Merci.
Merci,
Mme Kiro.
Merci.
On parlait il y a quelques instants à peine des différences donc entre ces programmes d'apprentissage en milieu de travail et de ce qui s'offre dans ce qu'on connaît un peu plus traditionnellement en milieu scolaire. Mais dans les deux cas, il y a des compétences essentielles qui doivent être développées. Et pour parler donc de ces compétences essentielles, je vous présente un entretien que j'ai eu un peu plus tôt avec M. Paul Bélanger, qui est professeur à l'UQAM et directeur de l'Observatoire Compétences Emploi. Et M. Bélanger, je lui ai d'abord demandé de nous décrire ce qu'on entend par compétences essentielles.
Ce qu'on utilise surtout en milieu de travail, c'est les compétences de base. Les compétences de base, c'est bien sûr être capable de lire le matériel qui nous est nécessaire, d'être capable de faire des rapports, de remplir des formules, donc d'écrire, d'être capable aussi de compter. Si moi, je suis dans une entreprise qui exporte vers les États-Unis ou qui importe des États-Unis, il faut que je transforme complètement les livres en métrique, parce que de l'impérial au métrique, etc. Mais il y a aussi la familiarisation avec l'informatique, qui est une autre compétence de base importante qu'on oublie. La capacité de communiquer aussi. Et ça, c'est pas que les travailleurs sont moins compétents qu'avant. C'est le travail qui change. Tu sais, moi, je suis dans une entreprise depuis 20 ans. Je suis allé à l'école, j'ai appris à lire, à compter, etc. Mais depuis que je suis au travail, c'est un travail répétitif et j'ai pas à exercer ces compétences-là. Donc, je les ai tranquillement oubliées. La règle de trois que je suis obligé de faire pour réajuster la grandeur du fil ou l'intensité du courant, etc., je ne l'ai plus pratiquée. Tout à coup, maintenant que la production est de plus en plus diversifiée dans mon entreprise, maintenant qu'il y a des postes de travail de plus en plus informatisés, numérisés, peu importe comment on veut le dire, maintenant que je suis obligé de faire un rapport à la fin de mon chiffre pour passer au nouveau chiffre, etc., de contrôle de qualité, etc., etc., l'univers de travail n'est plus le même. Maintenant que je suis dans une équipe de travail, non pas un poste isolé où je suis obligé de passer d'un poste à l'autre, etc. Donc, c'est ça qui exige un niveau plus élevé de compétences de base.
Ça, c'est des gens qui doivent développer ces compétences-là, même après 10, 15, 20 ans.
Qui doivent se refamiliariser. Si moi, j'ai appris le portugais, mais que ça fait 15 ans que je ne le pratique plus, il faut que je le réapprenne. Donc, ce n'est pas que ces gens sont moins compétents, c'est qu'ils sont dans un nouveau milieu qui demande de se refamiliariser avec des compétences qu'ils ont apprises. Au Québec, la plupart des gens ont moins de 8e année, etc. Et donc, c'est là qu'est l'enjeu actuellement. Et c'est l'enjeu pour plusieurs raisons. C'est l'enjeu parce que dans l'entreprise, maintenant, on peut pas simplement, lorsqu'on a besoin d'une nouvelle compétence, engager de nouveaux jeunes. Il faut, comme les employeurs nous disent souvent, faire avec mon personnel. Je suis chez Parmalat, par exemple, une compagnie de production laitière. Je viens de changer mon équipement en raison du contrôle de qualité, etc. Tous les postes sont informatisés. Il faut que je fasse vite une formation de base pour être capable que les gens soient capables de lire sur leur petit écran, sur leur poste de travail, de faire les rapports, etc.
Donc, c'est une forme de formation continue, si on peut dire, mais où on revient sur des, comme vous le dites, des éléments clés qu'on aurait pu apprendre il y a très longtemps. Mais comme on s'en servait pas dans notre poste précis, parce que là, les postes deviennent un peu plus ouverts ou on en demande plus pour chaque employé.
Oui, les postes sont plus informatisés. Alors, d'abord, il y a une nouvelle technologie. Moi, à l'école, j'avais pas appris il y a 20 ans de travailler avec un ordinateur. Et aussi, maintenant, je suis obligé de suivre de plus en plus de formations dans mon entreprise parce que il y a des nouveaux contrôles de qualité, il y a toutes sortes de nouvelles choses. Puis la formation, ça demande l'écriture, ça demande la lecture, ça demande d'utiliser l'ordinateur, etc. Si je suis en retard pour ma formation, je suis obligé de la refaire moi-même sur l'ordinateur, etc. Donc, c'est ça qu'il faut rafraîchir dans l'entreprise. Donc, c'est pas les employés qui sont moins compétents, c'est le travail qui a changé et maintenant il faut que les gens se refamiliarisent avec cela, etc. Et ça, c'est important, en particulier pour les travailleurs de plus de 45 ans, parce que ces gens-là vont travailler encore 20 ans, peut-être même 22 ans, on va voir.
Oui, c'est ça, selon les nouvelles législations.
Mais donc, pour leur droit au travail, ils ont besoin de ça. Et l'entreprise aussi, qui maintenant a une production plus diversifiée, a besoin de cette flexibilité de son personnel.
Et pour justement développer ces compétences de base de ses employés, comment une entreprise peut s'y prendre? Parce que, bon, on parle de différentes tailles aussi d'entreprises avec des moyens différents. Ça doit être difficile pour une
Là,
plus
c'est
petite.
Un gros débat. Parce que les gens traditionnels veulent remettre les gens à l'école. Ça n'a pas de sens. pas que l'école des adultes n'a pas de sens, mais ça n'a pas de sens à une première étape. L'expérience la plus intéressante, c'est celle dont je parlais tantôt de Parmalat. On a fait une première formation sur mesure d'à peu près une centaine d'heures pour permettre aux gens tout de suite de rafraîchir leurs compétences, puis d'être capable d'utiliser les nouveaux postes de travail, de contrôler, etc. Moi, autrefois, quand je voyais la couleur du lait, quand je voyais la senteur du lait, quand je voyais l'épaisseur du lait, je savais qu'il se passait des choses. Maintenant, tout est sur mon écran en information numérisée.
Ouais.
Donc, il faut que je sois capable
c'est
de...
C'est pas les mêmes repères.
Ben non, c'est
personne.
Pas les mêmes repères. Ouais. Bien sûr, quand la machine casse, ils ont besoin de moi parce que moi, je me rappelle qu'est-ce que ça veut dire. Mais c'est ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que tu as fait cette formation-là, puis que les gens peuvent maintenant passer dans la nouvelle entreprise, mais là, à coup sûr, je peux vous garantir, 75 % de ces gens-là veulent continuer de se former dans les centres d'éducation des adultes des commissions scolaires.
À l'extérieur. Maintenant qu'ils ont eu
ils demandent à l'entreprise de pouvoir les financer par les soirs pour continuer leur formation, parce que là ils ont surtout découvert qu'ils sont capables d'apprendre de nouveau.
C'est ça, aussi, c'est le développement de la confiance en soi, qu'on est capable, même à 45, 50, 60 ans, d'apprendre des choses.
C'est toute la fierté face à tes enfants, c'est toute la...
Tout à fait.
C'est en même temps, en sens contraire, t'as peur de t'inscrire. T'sais, il y a une entreprise à Montréal que je nommerais pas, une très grosse entreprise de production dans le milieu sanitaire. Et ils changent leur machinerie. Ils demandent à tout le personnel, à peu près 65 personnes de 50 ans et plus, de se former. Il y en a 5 seulement qui ont accepté. Les 5 ont réussi. Pourquoi les autres n'ont pas accepté? On a fait des entrevues. Ils avaient peur de ne pas réussir. Parce qu'ils disent, moi, à mon âge, je suis grand-père, je suis mon oncle, etc. C'est pas vrai qu'on va rire de moi. Et donc, c'est ça qu'il faut traverser.
Et ces gens-là n'ont pas étudié depuis de nombreuses années.
Ils s'imaginent qu'ils peuvent plus apprendre, puis qu'il y a toutes sortes de préjugés, etc., alors qu'on peut-tu continuer d'apprendre sans fin, là?
Et j'en ai glissé un petit mot un peu plus tôt. On parlait des différences dans les tailles d'entreprises aussi. Comment une entreprise de 10 employés, 12, 15, 20, 40, 50, 150, comment elle peut gérer justement cette formation en compétences de base?
C'est clair qu'il y a un gros problème pour les PME. Une entreprise qui a moins de 100 employés n'a pas la même flexibilité. Si moi, j'ai 5 soudeurs dans mon entreprise, par rapport à l'autre entreprise qui en a 40, dégager 3 soudeurs pour fin de formation, ça n'a pas le même impact dans un cas comme dans l'autre. Si moi, dans mon entreprise, j'ai pas de département de ressources humaines parce que j'ai une entreprise de 50 employés, donc il faut qu'on crée des regroupements d'entreprises. Et le Québec, là-dessus, une innovation fantastique qui s'appelle les mutuelles de formation. Mais les mutuelles de formation ont besoin d'un support continu, pas juste des subventions de démarrage, parce que le problème est structurel. Ces entreprises-là sont trop petites pour répondre aux besoins de formation, qui est aussi important dans les petites entreprises comme dans la grande, parce qu'une petite entreprise, ça fait partie d'une chaîne de production, souvent, ce qu'on appelle « value chain » en anglais, une chaîne de valeur. Mais le besoin de qualité est aussi important dans la pièce que moi je vais faire, qui va faire partie de l'ensemble d'une auto, de l'ensemble d'un frigidaire, de l'ensemble de je sais pas trop quoi, que l'ensemble. Donc, il faut que ma production soit de meilleure qualité, plus flexible, plus rapide, etc. Donc, j'ai besoin du même formation de mon personnel, mais j'ai pas l'outillage pour le faire, j'ai pas la disponibilité pour le faire. Donc, on a besoin. Alors, il y a, au Canada anglais, on a des consortiums où 12 entreprises se mettent ensemble pour partager des ressources, etc. Au Québec, on a les mutuelles de formation.
Et comment ça fonctionne, les mutuelles?
Mais par exemple, il y a une quarantaine d'entreprises sur une base régionale ou sur une base sectorielle. Par exemple, comme Format Plus, dans le sud-ouest de Montréal, il y a plus de 80 entreprises qui sont mises ensemble pour se donner des services communs d'analyse de besoins, d'organisation de formation, d'espèces de rôle d'entremetteur pour être capable. Moi, je suis pas capable, comme chef de petite entreprise, de savoir tout ce qui se passe dans le domaine de la formation. C'est quels les services aux entreprises des commissions scolaires qui sont les plus compétents dans le domaine, etc. C'est quelle autre ressource, etc. Donc, ce rôle-là est devenu essentiel pour les PME. Et c'est important parce que la majorité des emplois sont dans les PME. Donc, le relèvement des compétences de base dans les PME et la continuité de la formation technique pour l'économie québécoise, c'est important. Il faut qu'on réindustrialise le Québec.
Et en 2012, est-ce que vous pensez qu'il y a assez de soutien qui est offert à ces mutuelles de formation?
Le problème des soutiens aux mutuelles de formation, c'est que c'est un soutien temporaire. On les aide pour 3 ans, prétextant qu'ils sont capables de vivre par après. Mais n'as pas plus d'employés au bout de 3 ans que tu en avais au départ. Donc, tu as encore besoin. Donc, il faut vraiment là-dessus s'espérer que le nouveau gouvernement ait une ouverture par rapport à ça pour qu'on continue à financer. Les mutuelles sont capables de s'autofinancer en partie, bien sûr, mais ils ont besoin d'un financement de base du côté gouvernemental, ça, c'est sûr. Et ça va permettre à nos PME qui sont en train d'exporter, qui sont en train d'innover, de se développer. Parce que c'est là que va se faire le deuxième réveil industriel du Québec dont on a besoin actuellement. Actuellement, il y a à peine 16 % de notre économie qui sont dans le secteur industriel. On a trop vite tout exporté vers la Chine, etc. Il faut reprendre dans le vêtement, dans le métal, dans la fabrication métallique. Tout le plan Nord du Québec, par exemple, il faut faire une deuxième, une troisième transformation au Québec. Mais ça implique que les entreprises au Québec aient un degré de sophistication beaucoup plus élevé pour avoir une productivité plus forte. Donc, ça implique des compétences de base de l'ensemble du personnel.
On parle de compétences de base, ça influence le travail, mais aussi notre vie personnelle.
Ben oui, parce que la motivation d'une travailleuse dans l'entreprise, d'un travailleur dans l'entreprise, c'est je veux apprendre des nouvelles technologies parce que je veux être capable de déléguer avec mon fils qui est un maniaque des nouvelles technologies,
etc. Les médias sociaux.
C'est ça, c'est ça. Et donc, ça, c'est intéressant. Les motivations sont multiples. Et ça, nous, on fait un projet expérimental actuellement avec le comité sectoriel de la métallurgie où 4 entreprises sont impliquées dans le projet et on s'aperçoit que les motivations sont à la fois des motivations de l'entreprise qui a besoin de renouveler ses techniques de production, son mode de production, mais c'est aussi les motivations des individus comme tels, d'abord pour être capable d'opérer dans les nouvelles entreprises puis garder leur emploi, mais aussi pour toutes sortes de motivations qui n'ont pas à faire au travail, mais qui viennent renforcer la motivation reliée au travail, comme parents, participation sociale. Maintenant, je suis responsable, je suis trésorier de mon club local de soccer, etc. Et ça, c'est intéressant, la chose. D'ailleurs, c'est assez intéressant que dans l'avenir, nos services d'éducation des adultes, des commissions scolaires, s'intéressent aussi aux motivations non reliées au travail de base.
Tout à fait, c'est ça.
Parce qu'il y a des compétences de base. On a tous besoin dans notre vie quotidienne de compétences de base. Et la compétence de base n'est pas uniquement reliée au travail.
Non, et si on est plus fort au travail, on sera plus fort partout dans notre vie.
Malheureusement, l'éducation populaire est disparue des commissions scolaires et ça, c'est tragique.
Ben, on va quand même garder notre esprit positif et espérer que ça sera encouragé. Et surtout, ces mutuelles de formation qui pourront aider aussi les différentes entreprises, surtout les PME au Québec à renforcer donc les compétences des employés.
Les mutuelles de formation. On en a maintenant quelques-unes à Montréal, on en a à Sherbrooke, on en a à Québec, des mutuelles territoriales. On a aussi les mutuelles sectorielles où certains secteurs ont mis des mutuelles pour leur groupe. Donc, c'est intéressant comme développement.
Bon, on est sur la bonne voie au Québec. Oui. Monsieur Paul Bélanger, vous êtes professeur à l'UQAM et directeur de l'Observatoire Compétences Emploi. Merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui.
Ça fait un grand plaisir.
C'est ce qui met fin à cette première demi-heure de Pour un Québec apprenant. On va s'arrêter quelques instants, mais restez à l'écoute. Tout de suite après la pause, on parlera de transfert intergénérationnel de compétences en milieu de travail.